Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux ce soir à rencontrer Baptiste Beaulieu. Baptiste, bonsoir.
Bonsoir.
On va te représenter rapidement, même si j'ai l'impression que ça ne va pas être forcément nécessaire. Donc, jeune médecin de 28 ans.
C'est ça.
Pas, voilà. Tu as commencé à écrire un blog en 2012, un blog qui s'appelle Alors Voilà, dans lequel tu racontais ta vie de jeune interne dans l'hôpital de Hoche. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie d'écrire ce blog en 2012, à la dernière année de ton internat?
En fait, ça arrivait à une période où il y avait beaucoup de mouvements de grève au niveau hospitalier, et c'est vrai qu'on interrogeait les gens dans la rue. Il y avait des micro-trottoirs, et j'étais très étonné de voir la vision que les gens avaient de l'hôpital, la façon dont ils étaient... Enfin, cette méconnaissance qu'ils avaient du travail des équipes soignantes, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des jeunes internes. Et je me suis senti trahi parce que c'est vrai que j'avais l'impression qu'on est là pour la population, qu'on est là pour les soigner. Et parfois, on sentait vraiment beaucoup de désamour de leur part. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi parce que les médias aiment bien cliver, ils aiment bien aussi donner parfois du sensationnel ou un petit côté sordide. Et je me suis dit, personne ne sait les belles choses qui se passent à l'hôpital. Je me suis dit, ben voilà un parti pris à prendre, raconter l'être humain, les belles choses qui se passent à l'hôpital.
Très bien. Donc, le blog a rencontré un succès assez impressionnant très rapidement. Il y a un article dans Sud-Ouest. Ensuite, a reçu le prix Alexandre Varnet en 2013. Donc, il y a un prix qui est plutôt réservé à des publications...
Des thèses.
Des thèses, voilà, plutôt des thèses. Puis d'autres articles dans la presse. Et là, ça a décollé. Un engouement journalistique et de la part du public. Et
tu m'as arrêté là. Juste que j'ai chaud.
Et donc plusieurs maisons d'édition t'ont contacté en fait pour publier ce blog. Je vais attendre que tu enlèves cette chemise.
C'est bon. Je m'arrête là.
Et donc, comment s'est passée la réécriture? Parce que entre le blog et le livre, il y a quand même un monde, même
bien
si
sûr.
Évidemment les deux communiquent ensemble et sont interdépendants. Il y a quand même une vraie différence. Enfin, c'est un vrai livre. C'est pas juste des notes mis bout à bout et imprimées sur du papier.
Alors, le succès du blog, d'abord, ça a été vraiment très très vite et c'était totalement inattendu. Un matin, je me suis levé, j'avais 60 000 personnes en ligne et dans la journée, je recevais 5 propositions de maisons d'édition les plus belles de Paris qui me disaient on aimerait beaucoup, beaucoup vous rencontrer. Et en fait, tout simplement parce que la rédactrice en chef du Monde de l'époque est tombée par hasard sur le blog, elle l'a dévoré en une après-midi, elle m'a même pas prévenu, elle a fait un article qui est en une du monde.fr comme ça, et moi je me lève un matin, 60 000 personnes, et donc ça a été assez fantastique. J'ai rencontré les différentes maisons d'édition, et j'ai signé avec Fayard pour une bonne raison, c'est que tout simplement dès le début, ils m'ont dit on sent que tu as envie d'écrire, on trouve que tu écris bien, on veut te faire confiance, on veut que tu nous fasses un vrai roman, un vrai livre, avec les anecdotes du blog, avec une vraie trame narrative. Et on veut que tu nous en fasses aussi d'autres si tu te sens capable d'écrire. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu faire médecine. Médecine, ça me plaît. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et que si on me donne l'occasion, si on m'offre la possibilité de continuer d'écrire, je la saisirai. Je veux raconter aux gens les belles choses que je peux voir à l'hôpital, mais aussi les belles choses que je peux voir dans la rue, les belles choses que je peux voir en allant acheter ma baguette de pain. Vous savez, je crois que quand on écrit, c'est que parfois on a un peu marre de ne pas être écouté et ce besoin d'écriture, ça me sauve. Je pense que tous les gens qui écrivent ou qui ont une activité qui les passionne peuvent comprendre ce que je dis.
Quand as-tu trouvé le temps d'écrire?
Alors, je vais vous montrer mon secret. Ça a une petite pomme, en fait. C'est l'iPhone. En fait, je trichais un peu. Je disais que j'allais fumer une clope ou que j'allais aux toilettes. Et puis, j'allais écrire une petite anecdote rapidos comme ça en 2 minutes sur mon téléphone. La dame a dit que c'est pas bien. Non, c'est vrai que les nouvelles technologies ont ça de fantastique. C'est que ça me prenait 2 minutes pour écrire l'anecdote. Je me l'envoyais par mail. Le soir, je la récupérais, je la mettais sur le blog. Et puis voilà, c'était réglé, quoi. J'avais pas besoin d'un gros ordinateur avec moi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'aux urgences, on capture l'instant, c'est-à-dire qu'on sort d'un box, il y a quelque chose qui nous a touché, on met 2-3 idées, 2-3 phrases, comme ça, le soir, quand on est dans son lit, on peut reprendre les choses et les écrire en 2 minutes. Quoi.
À partir de quand tes collègues se sont rendus compte que tu écrivais, est-ce que tu leur en as parlé, est-ce qu'au bout d'un moment, ou est-ce que c'est eux qui s'en sont rendus compte, juste en surfant sur Internet, ils se sont dit, tiens, je me reconnais dans cette histoire et j'ai l'impression de connaître cette personne?
Non, parce que dès le début, mon but, c'était de mettre en avant le côté équipe soignante. J'ai la chance de toujours m'être bien entendu avec les aides-soignants et les infirmiers, tout simplement parce que je les aime. J'aime ce qu'ils font, j'aime la proximité que je peux avoir avec eux. Qu'il y en a un qui m'a sauvé une fois, j'avais prescrit du paracétamol à un patient, et il est venu me voir, il m'a dit à l'oreille pour pas que le chef entende, il dit, le patient il est allergique au paracétamol, il fait des œdèmes de Quinck. Ce jour-là, je me suis dit que les aides-soignants, je les aimais beaucoup. D'abord parce qu'il a sauvé le patient, puis il m'a évité d'aller en prison. Voilà. Et donc, dès le début, j'ai joué carte sur table aux équipes soignantes. Je suis allé les voir en leur disant, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a ému. Et c'est fou de voir parfois des gens qui viennent et qui te racontent des histoires qui ont 20 ans et qui t'en parlent, mais avec les larmes aux yeux. Et tu sens qu'ils n'ont pas fait de résilience et que ce métier-là, même si on peut avoir l'air de se blinder et tout, 20 ans après, le chef que tout le monde pense voilà, inébranlable, il t'en parle, il a les larmes aux yeux, quoi.
Toutes les personnes dont tu parles existent vraiment.
Toutes. Après, pour répondre, on me dit toujours le secret médical. Donc, comme je dis toujours, donc je change le nom, je change les âges, les sexes, mais surtout, ce qui est important et ce qui est fondamental, c'est que tout le monde me raconte cette histoire, y compris mes amis qui sont internes aux quatre coins de la France. Donc les histoires, elles viennent pas seulement de mon petit hôpital, elles viennent de un peu partout en France, et surtout, il n'y a pas de pathologie unique, je suis désolé. Les gens qui aimeraient se dire, oh, c'est mon histoire, c'est la mienne, aucune histoire n'est unique. Et j'ai reçu très souvent en double, en triple, voire en quadruple exemplaire la même histoire, mais de différents hôpitaux. Et je trouve ça très beau parce qu'il y a des histoires qui se réunissent comme ça.
Il n'y a pas de légende urbaine, on ne te raconte pas des...
Alors, quand j'ai des doutes ou quand la personne... J'ai publié quelques légendes urbaines parce que ça fait partie aussi de l'hôpital, ce côté conte comme ça. J'en ai raconté quelques-unes, dont une qui une légende urbaine, mais que tous les étudiants en médecine connaissent. Il y a des enfants dans la salle.
Oui. Ouais.
Non, l'histoire d'un jeune homme qui avait offert une bouquet de fleurs à sa compagne. Et sa compagne, pour le remercier, a voulu lui faire une petite gâterie. Et le problème, c'était qu'elle était épileptique. Et elle a eu une crise d'épilepsie au moment où... Voilà. Et c'était dans la cuisine. Ils ont voulu faire ça dans la cuisine. Et lui, ce serait, soi-disant, pour ce Il y a un trismus, en fait, quand on fait une crise d'épilepsie, c'est-à-dire une fermeture incontrôlée des mâchoires. Et donc, pour se débarrasser de sa copine, il a attrapé une poêle, il a tapé très, très fort sur sa tête. Et donc, ils sont arrivés tous les deux, elle avec une commotion cérébrale et lui avec un problème très, très important dans une partie très, très gênante de son anatomie. Voilà. Alors ça, on sait que c'est une légende urbaine, mais probablement qu'elle prend sa source sur quelque chose de véridique. Voilà.
Et celle-ci, par exemple, en fait, elle est vraiment valable dans tous les hôpitaux de France.
Tous les internes se la racontent.
Oui, voilà,
tous les internes connaissent cette histoire. Mais ça fait partie aussi de l'hôpital. Et puis, c'est le petit conte qu'on se raconte le soir au coin du feu entre
Alors,
nous.
Tu es très tendre avec tous tes patients, même les plus abominables, même les plus infects.
On me l'a reproché, ça, mes collègues.
Même les plus racistes. Ouais. Enfin, il y en a qui sont ouvertement agressifs, et, tout en le sachant. Il y en a certains, on pourrait dire, c'est la maladie qui les rend comme ça et on pourrait les excuser, et d'autres par contre qui sont véritablement ignobles. Et tu arrives quand même à trouver quelque chose de positif chez eux, quoi qu'il arrive.
C'est tout simple. Je crois que la maladie déforme les gens, et que je me suis rendu compte à l'hôpital, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens qui sont malheureux. Et tous ici, on a connu des coups durs et on sait tous qu'en cas de coup dur, on peut avoir tendance à être irritable, à être méchant vis-à-vis de son entourage, à réclamer une attention qu'on n'aurait pas besoin de réclamer d'habitude. Et je crois que les coups durs transforment les gens, et des coups durs plus des coups durs plus des coups durs, ça finit qu'on finit aigri et on finit méchant, entre guillemets. Et je pense que tout le monde est estimable, tout le monde est aimable, sauf un médecin avec qui j'ai travaillé.
Du coup, oui, ceux que tu décris parmi le personnel soignant, tu as beaucoup d'affection effectivement pour les infirmières, les aides-soignants, beaucoup de tes collègues internes, deux ou trois responsables aussi que tu respectes énormément, et ça se ressent beaucoup, à la fois dans les pseudos que tu leur donnes, et même dans la manière dont tu parles d'eux. Puis il y en a deux ou trois quand même qui sont un peu plus caractériels, dirons-nous.
Je parle de deux chefs notamment avec qui j'ai travaillé, dont un, j'ai passé 6 mois avec lui, c'était en cabinet de ville, un vieux médecin, et qui m'a vraiment... montrer ce que je voulais pas devenir, c'est-à-dire on était dans un tout petit village au fin fond de l'Aveyron, et il était raciste, homophobe, antisémite, alors que je suis pas sûr que c'était au fin. Une fois, pour vous dire, on est passé devant une petite école, il y avait une dame noire avec son bébé dans les bras, et il se tourne vraiment, il me fait, même ici ils sont là, et je me dis mais 2014. En plus, il savait très bien que j'ai une grande sœur qui est noire, qui a été adoptée quand j'étais tout petit. Je lui avais dit dès le début. Il avait des réflexions parfois juste impossibles. Et je pense que c'était un bon médecin là-bas. Je crois juste qu'il a été usé par le métier. Et beaucoup de médecins avec qui on parle quand ils sont âgés sont vraiment revenus de tout, quoi. Ils sont très, très, très blasés.
Alors, j'aimerais revenir plus sur le livre en lui-même et sur l'écriture. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de réécrire, en fait ? Est-ce que c'est l'éditeur qui te l'a imposé au départ ? Est-ce que c'est toi qui as dit « je veux raconter une histoire » ? Est-ce que tu prends les notes de tes différents blogs pour les inclure en fait, dans un récit un peu plus vaste, qui s'inspire des mille et une nuits, puisque pendant 7 jours, tu vas raconter tes anecdotes, ta vie, ton métier, et le métier, toutes les choses qui t'entourent, à une patiente qui a une maladie incurable et dont l'issue est proche.
Mais l'idée, elle est venue toute seule, en fait, d'une amie à moi qui était écrivain, qui me donnait des cours d'écriture. Quand j'étais en médecine, je faisais des cours d'écriture à la fac de sciences. Il y avait des cours d'écriture une fois par semaine. Cette femme était écrivain, publiée, éditée, traduite aussi, donc vraiment, et qui nous a parlé une fois, comme ça, on fumait une clope, et qui nous a raconté comment elle avait accompagné sa compagne jusqu'au bout, et pour pouvoir la maintenir en vie, elle s'était demandé qu'est-ce que je peux faire, moi je sais rien faire à part écrire. Donc elle avait commencé à lui raconter les petites choses de la vie quotidienne, et puis quand son amie n'a pas pu lire parce que la maladie avait progressé, elle a commencé à lui lire, puis à lui dessiner, et je trouvais ce côté pouvoir de la parole, comment essayer de retenir la personne qu'on aime, je trouvais ça très fort. Et c'est vrai que quand Fayard m'a dit est-ce qu'on fait un catalogue du blog, ou est-ce que tu veux nous montrer que tu sais écrire une vraie histoire, j'ai dit ben cette histoire je pense que je l'ai déjà en moi depuis longtemps, et que je veux la raconter aux gens parce que elle est belle. Et on voit trop, il y a une vraie sinistrose actuellement, on voit que le mauvais côté des choses, et je voudrais vous dire, à l'hôpital, on en voit tous les jours des belles choses qui se passent. Il y a des gens qui sont malades, qui viennent 24 heures sur 24, 364 jours par an. Il y a un endroit qui est ouvert pour vous si vous n'allez pas bien pour une raison X ou Y, que ce soit pour la cheville ou pour que ce soit pour le moral. Je trouve que c'est très important de savoir que quoi qu'il nous arrive dans la vie, il y a un endroit où on est protégé, où on peut aller, où on peut se réfugier. On a tendance à l'oublier, ça, mais ça nous sépare de l'animal, ça nous sépare de l'anarchie. Le jour où il n'y aura plus d'endroits comme ça, je crois qu'on sera redevenus des bêtes, tout simplement. Quoi qu'il vous arrive, il y a un endroit ouvert tout le temps où vous pouvez aller. Parce que pour moi, je trouve ça très fort, je trouve ça très important. Je ne me souviens plus de ta question.
J'ai un peu oublié. Non, c'était oui sur la réécriture, en fait, sur l'envie de raconter donc cette histoire. Puisqu'on est alors à mi-chemin entre le témoignage et le roman, les droits du livre ont été achetés par 10 pays, ce qui est quand même pas rien, 3-4 mois après sa sortie en France. Donc ça veut dire qu'au marché de Francfort, en fait, t'as un éditeur qui t'a beaucoup défendu et qui a réussi à le vendre dans 10 pays. Il vient de sortir en Italie, ou il va sortir
en Italie ? Il sort en avril en Italie, oui.
Voilà. Donc félicitations. Mais sous le terme de roman, parce qu'on est vraiment entre la forme du roman, parce qu'il y a une vraie histoire, puisque le personnage que tu appelles la dame oiseau de feu n'existe pas, c'est vraiment un personnage de fiction, même tout ce dispositif que tu mets en place n'existe pas, et entre vraiment le témoignage brut du blog. Est-ce que tu les as réécrits d'ailleurs, ces notes de blog, ou est-ce que c'est vraiment...
Je les ai réécrites, adaptées pour qu'elles soient... pour les intégrer à la trame narrative, tout simplement. Et je voudrais juste dire que même la trame narrative, je me suis aussi inspiré d'une amie à moi qui était interne, qui a modifié son terrain de stage pour pouvoir accompagner sa mère qui était en soins palliatifs, et qui du coup a jonglé toute la journée entre les urgences et le service de soins palliatifs où elle était avec sa maman pendant 6 mois, et elle l'a accompagnée jusqu'au bout. Et je trouvais ça aussi très très fort à raconter, ce côté navigation entre les services. Elle travaillait en bas pendant que sa mère était en train de mourir en haut, et je trouvais ça très très fort. Et quand Fayard m'a dit est-ce que tu veux raconter une histoire, j'ai dit dans ma tête je savais déjà que je voulais raconter celle-là.
D'accord. Comment on fait pour parler de la mort avec autant de justesse ? Autant il y a des passages qui sont vraiment très très drôles, et on sent que tu prends vraiment plaisir à les raconter, et il y a vraiment un côté histoire drôle.
Moi j'adore faire rire les gens. Voilà.
Et à côté, il y a des moments où tu arrives à être très très touchant et très, hyper juste.
Moi, je pleure beaucoup. J'adore faire rire et pleurer les gens. En fait.
Comment on gère ça ?
Non, non. Tu sais, je crois que quand on commence les études de médecine, c'est juste après le bac. Moi, j'avais à peine 20 ans quand on est rentré dans une salle, que je venais d'avoir mon concours et qu'on m'a dit « Bon, ben voilà, vous voyez les 10 corps qu'il y a là, il va falloir les disséquer. » J'avais jamais vu de corps mort. J'avais jamais vu de corps nu mort. Et je crois que personne n'est prêt à 20 ans pour ce genre de choses. J'avais 22 ou 23 ans quand je suis allé sur ma première intervention SAMU et où le patient est décédé. Je parle d'une anecdote, c'est sur le blog, je crois que c'est ma préférée, c'est celle qui m'obsède tout le temps, à laquelle je reviens en permanence parce que je ne saurais jamais décrire exactement ce qui s'est passé. On était avec le SAMU, on était deux équipes, on est parti à 3h du matin pour s'occuper d'une jeune fille de 16 ans qui avait fait une tentative de suicide dans un internat. On est arrivé, il y avait tous ses amis, ses copains lycéens qui étaient en pyjama en train de regarder le pompier qui était en train de masser, le pompier épuisé en train de masser. J'ai remplacé le pompier, mon chef a commencé à intuber la jeune fille. On s'est battu comme des beaux diables parce qu'elle avait, 16 ans et elle est décédée. Donc on a pris son corps, on l'a amené dans sa chambre, il y avait des photos d'elle partout, Martine à la plage, Martine aux eaux avec sa famille et tout, c'était terrible. Moi j'arrêtais pas de me dire qu'à l'autre bout du département il y avait des gendarmes qui allaient sonner chez des gens pour les réveiller en pleine nuit et leur annoncer la nouvelle. Donc on est remonté dans l'ambulance avec l'ambulancier, le chef, l'infirmier. On était dans un état pas possible et personne ne parlait dans la voiture, vraiment ce silence de mort, ce qu'on appelle un silence de mort dans plein de villes dans la nuit comme ça. Et en même temps, l'autre équipe était partie une demi-heure plus tôt sur un accouchement qui s'annonçait très très mal. Et finalement, l'accouchement s'est bien passé. Et dans la voiture, il y a eu des parasitages sur la ligne. Et on a entendu le bébé pousser son premier cri à ce moment-là, alors que nous, on était tous les quatre. Et je mets au défi quiconque de vivre ce qu'on a vécu tous les quatre dans cette voiture et de ne pas revenir le matin en se posant un milliard de questions, en se disant finalement, ce que je fais est bien plus complexe que ça et résonne sur des sujets bien, bien plus vastes que le simplement soigner quelqu'un. On traite avec des mystères, je crois. Enfin, avec le mystère, tout simplement. Avec un grand M.
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire médecine hein ?
C'est une question hyper intime, ça.
Ouais. Tu réponds un peu dans le livre aussi, en même temps.
J'y réponds un peu dans le livre. Il y a Dr. Quinn, femme médecin.
Une raison.
Je voulais être un Indien. Bref, non. Peut-être un petit peu Dr. Quinn, mais sinon, la vérité, c'est que j'avais 6 ans. Quand on est allé en sortie, on allait à la piscine municipale. Une piscine municipale avec tous les gamins, comme tous les gamins font. Et on est passé dans le quartier où il y a beaucoup de prostitution. Et on a croisé une jeune femme qui était prostituée, voilà, et qui s'était fait tabasser, vraiment. Elle s'était fait. Elle avait la joue ouverte, une partie du sein vraiment déchirée en deux. Et elle nous a vus, elle s'est cachée. Elle avait vraiment très honte de s'afficher comme ça devant une ribambelle de gamins qui sortait de la piscine. Et ce jour-là, ce que je dis dans le livre, je me suis dit, plus tard, je tuerai le mec qui lui a fait ça. Puis après, j'ai grandi, j'ai su qu'on ne pouvait pas tuer les gens. Et donc, je me dis, plutôt que de tuer quelqu'un, essayer de soigner cette femme. Et le mal qu'on lui a fait. Et c'est vrai que je crois que ma vocation de médecin, elle est née à ce moment-là. Mais vous savez, c'est très important. Je crois qu'on est toute notre vie hantée par ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Quand j'ai parlé avec une de mes chefs en lui demandant pourquoi elle a fait médecine, j'en parle dans le livre. Elle me dit, c'est tout bête. Elle était au lycée, elle était avec des copines derrière des poubelles pour fumer. Il y a eu un accident de voiture devant elle qui a poussé la poubelle. Et pendant une demi-heure, ils ont attendu les secours. Et la femme qui était dans la voiture attendait les secours. Et ma chef, qui était toute jeune à l'époque, s'est sentie tellement impuissante. Elle n'a rien pu faire. Elle a vu, la dame partir, mourir. Et elle me dit, mais ce jour-là, j'ai compris que c'était le métier que je voulais faire. Tout simplement. Et je pense que c'est incroyable de se dire ce pivot central dans une vie juste à cause d'un simple petit événement, grand événement pour la dame qui était dans la voiture, mais pour juste un événement qui va modifier toute votre vie. Peut-être qu'elle serait devenue médecin autrement, peut-être pas. Je pense qu'on ne fait pas ces métiers-là par hasard, mais c'est compliqué. C'est compliqué.